Cours de latin liturgique par Bernadette Lécureux, Paris, édition septembre 2011, Una Voce, page 20, leçon 8. Dans la prose Stabat Mater, qui comporte 20 tercets, nous allons extraire 5 strophes. Alors, page 20. Stabat Mater Dolorosa, Iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Dolorosa, de douleur, c'est faux. Hein, c'est douloureuse. Ouais, moi, j'aime pas les traductions ornées. Lacrimosa, c'est vrai que lacrimante, ça, on va pas le dire, c'est fait en larmes, ça, pour le coup. Mais dolorosa, c'est douloureuse, hein, c'est pas de douleur, hein, c'est...
Ben pourquoi elle a mis de douleur?
Voilà, mais en larmes, l'expression est... Il n'y a pas d'équivalent en français, mais dolorosa, c'est douloureuse. Hein, enfin, et c'est vrai que de douleur, ça, on peut traduire comme ça, mais c'est un peu orné. Adjectif latin correspondant à des compléments de noms français. Alors, non, c'est pas des compléments de noms, c'est des, ce sont des adjectifs qualificatifs épithètes. Stabat mater dolorosa. La mère douloureuse. Stabat était debout. Stosta stare, c'est se tenir debout.
Stetistatum.
Iuxta crucem. Iuxta, c'est une préposition plus accusatif. Alors vous allez me dire, c'est un complément circonstanciel de lieu, ça devrait être quand même à l'ablatif, en plus elle bouge pas. Mais iuxta, il y a une idée un peu lointaine de... elle est là, et elle sait pas qu'elle se déplace, mais bon, elle pourrait se déplacer... c'est un lieu qui n'est pas très statique, pas tout à fait statique. C'est par là qu'elle se trouve. Vous voyez? Bon. En tout cas, c'est plus accusatif. C'est ça le propre de iuxta. C'est pour ça qu'on a crucem. Alors. Lacrimosa, à nouveau, adjectif qualificatif. On pourrait dire même en français épithète parce que le latin l'a mis loin, mais c'est toujours nominatif féminin singulier sur mater, qui est le sujet de stabat. Donc tous les adjectifs qualificatifs prennent le cas et la fonction grammaticale, comme en français d'ailleurs, du mot qu'il qualifie. Mater est sujet du verbe, donc dolorosa et lacrimosa est au nominatif, c'est le groupe sujet en grammaire française. Par contre ici, dum, c'est particulier, c'est une conjonction de subordination. Alors là, il faut que vous alliez dans la grammaire française. Les conjonctions de coordination, ce sont des petits mots qu'on résume par « mais » ou « est » donc « or »,« ni », »,« car ». Voilà. Et donc, ce qui fait que ce sont des conjonctions de coordination, on coordonne deux choses. Ça peut être deux propositions, ça peut être deux mots, voilà. Mais ici, c'est une conjonction de subordination, donc c'est une proposition verbale, c'est une phrase avec un verbe qui est annoncé par une telle conjonction de subordination. Dum en latin veut dire tandis que. Le verbe qui suit cette conjonction se met à l'indicatif. Ils sont tout contents, on a trouvé un verbe moins difficile. Stabat se tenait debout, verbe à la troisième personne du singulier de l'imparfait de l'indicatif, et pendebat, c'est pendre. Dum, pendebat, tandis que pendait le Fils. Alors, en latin, lorsque c'est évident, on ne met pas d'adjectif possessif. Donc, c'est son Fils. En français, on traduirait par son Fils, pas le Fils. Pendant que son Fils pendait à la croix. Hein, c'est ce que ça veut dire. Si on met l'ordre des mots français, on dirait Mater dolorosa et lacrimosa stabat uxacucem dum filius pendebat. Vous voyez ? Nous reviendrons sur la conjugaison de ce temps dans la partie grammaticale de cette leçon. Filius, son fils. L'adjectif possessif est sous-entendu. Que merebat et dolebat, pia mater dum videbat, nati penas incliti. Que merebat et dolebat, pia mater, elle souffrait, elle se désolait, la tendre mère. Si nous traduisons que, pronom relatif, elle qui, hein, c'est elle qui souffrait et se désolait, la pieuse mère, pendant qu'elle voyait les peines de son fils illustre. Inclitinati, penas nati incliti. Forme familière en latin, c'est un relatif de liaison, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de phrase principale et on met un pronom relatif. Celle-ci. Hein, celle-ci souffrait et se désolait, la tendre mère, pendant qu'elle voyait son enfant illustre, son fils illustre, pendant qu'elle voyait les peines de son fils illustre.
Maerebat, c'est le verbe.
Merere.
Oui, merere. Souffrir.
Souffrir. Oui, souffrir.
Merebat.
Le latin use couramment de ces mots de liaison que le français omet la plupart du temps. Nous aborderons en fin de leçon la déclinaison du pronom relatif. Nous reviendrons également, comme nous l'avons dit, sur les imparfaits. Pia mater, c'est se référer à l'explication donnée pour Salve Regina. Bon, c'est tout simplement le verbe.
C'est un déponent, mereor, non ? C'est pas mereor, mais c'est mereor.
S'il était vraiment déponent, on n'aurait pas merebat. Mais dans le latin chrétien, il y a des verbes déponents qui deviennent parfois réguliers.
Et c'est meritus sum.
Oui.
Bon, c'est mereor, meris, mereri, merite.
Non, mais là, vous confondez avec mérité.
Ah oui, je confonds. C'est lequel alors, c'est...
Là, c'est merebat, c'est M-A-E-R.
Ah oui, je confonds, oui, pardon. C'est avant. Ah oui, merebat.
Dum videbat nati penas incliti, tandis qu'elle voyait les peines de son illustre fils. Donc pena, pene, hein, c'est sur rosa, rosé. Première déclinaison. Penas, c'est l'accusatif féminin pluriel. C'est clair. Donc, vu que vous avez un verbe transitif, c'est-à-dire un verbe qui veut un objet à regarder, et en plus c'est le verbe regarder, donc c'est clair, elle voyait les peines. Mais ici, nati incliti, comme c'est un vocabulaire un peu particulier, c'est natus. En fait, c'est le participe passé du verbe naître, qui est un déponent, lui, c'est nacor, pardon. Et donc, qui donne natus au participe passé, né. Alors, nascor, N-A-S-C-O-R, ça veut dire je nais. Nacheris, c'est tu nais. Nachi, c'est être né, ou naître, pardon, naître. Natusum, je suis né. Et c'est un déponent, c'est pas j'ai été né, hein, mais je suis né, natus.
Oui, lui c'est un déponent.
Naître, c'est un vrai déponent. Donc nati, ici, c'est un participe passé qu'on utilise comme substantif, comme nom. Donc, si vous déclinez natus, ça fait natus, nate, natum, nati, nato, nato, nati, nati, natos, natorum, natis, natis. Et donc, ici, c'est pas le pluriel, hein, c'est le génitif singulier masculin. Génitif masculin singulier. Et incliti, eh bien ça, il faut connaître, hein, c'est inclitus, inclita, inclitum. C'est un adjectif qui se décline sur les premières et deuxièmes déclinaisons suivant le genre masculin ou féminin. Ici, nous sommes donc bien dans un adjectif masculin, parce que c'est du génitif masculin singulier, comme nati. Alors, le latin aime bien séparer le nom de son adjectif qualificatif, en mettant penas au milieu, n'est-ce pas? Les peines du né, hein, de celui qui est né, du fils, du natif, enfin pas natif, enfin du... Vous voyez, incliti illustre. Voyez. Natus est synonyme de filius, le pronom possessif est sous-entendu, c'est son, sui. Donc si on... ille merebat et dolebat, piamater dum videbat, penas nati incliti. Vidit suum dulcem natum, moriendo desolatum, dum emisit spiritum. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Dans cette strophe, les verbes sont en parfait. Video vides videre, vidi visum, voir. Donc, vidit, c'est elle vit. Quand vous prenez le tableau magique, vous prenez la première colonne à gauche. N, V, AC, G, D, ABLE. Sujet, attribut du sujet, apostrophe, complément d'objet direct, complément du nom, complément d'objet indirect, complément circonstanciel. Qui, quoi, oh, quoi, de qui, de quoi, pour, contre qui, pour, contre quoi, comment, par qui, où. Et là, ça, c'est pour vous donner les cas, les fonctions grammaticales. Les personnes, je, tu, il, nous, vous, il. Les terminaisons à l'actif, o, m, s, t, mus, tis, ent. Au passif, re, ris, ou ré, tour, mour, mini, untour. Et au parfait, i, vidi, je vois. Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. C'est du parfait. Isti, hein, c'est tu. It, c'est il. Imus, ça ressemble à l'actif. C'est de l'actif, mais il y a le i du participe passé, enfin du parfait, du passé simple. Istis, c'est vous, et erunt, ou plus rarement erré, c'est il au pluriel. Vidit, c'est elle vit. Sum dulcem natum. Donc là, on insiste puisque le dulcem natum, natum, c'est complément d'objet direct, dominum, natum, hein, le né, l'enfant, celui qui est né, dulcem, son doux, le doux enfant, sum, son. Vous vous souvenez de la règle? Quand il y a un adjectif possessif, si l'objet possédé est possédé par le sujet du verbe, on utilise un pronom réfléchi. Son, ça, c'est. voyez. Lorsque le sujet du verbe principal est le possesseur de l'objet possédé, on utilise un pronom réfléchi. Emittere spiritum, c'est rendre l'esprit. Ici aussi, on a un parfait. Emito, emitis, emittere, emissi, emisum. Moriendo, en mourant. C'est le verbe déponent, morior, je pense. Nous reviendrons plus tard sur le mode inconnu en français, le gérondif. Alors, gérondif, c'est une sorte de participe présent, hein, décliné, qui indique le moyen et se traduit ainsi par « en » plus le participe présent. « En mourant ». Ça ressemble à un ablatif. C'est un ablatif. Il est difficile, vous voyez, c'est comme si on avait moriendus, moriendi, moriendum, moriendi, moriendo, moriendo.
En français, ça n'existe pas.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un adjectif verbal en latin. Il est difficile de traduire en bon français toutes les nuances de ce verset. Elle vit son fils, son propre fils, si cher, si doux, hein, si désolé dans son agonie, jusqu'à ce qu'il rendit l'âme.
Oui, c'est une traduction forte.
Désolatum ici, c'est de l'accusatif singulier, comme natum et comme dulcem. Donc ça ne concerne pas la Vierge Marie. C'est pas elle qui est désolée, c'est le Fils. Et là, c'est pas désolé dans le sens triste, c'est isolé, seul.
Ils auraient pu mettre isolé ou les traduire désolé.
Oui, c'est désolé au sens plus rare du terme. Hein. Je suis désolé.
Là, on n'arrive pas à une bonne, on n'arrive pas à une bonne traduction.
Voilà. Donc j'aime bien les traductions lourdes, bien. Voilà. Moriendo, désolatum.
C'est abandonné peut-être.
Abandonné.
Voilà.
Vous voyez, désolé au sens d'abandonner. Désolé au sens d'isolé, abandonné. Elle vit son fils, son très cher fils, son doux fils. Alors je vois pas pourquoi ils disent son cher fils, parce que dulcem, c'est son doux fils.
Son propre fils si cher.
Mais en effet, doux pour elle, c'est cher. Hein, mais il peut être aussi un enfant doux. Mais là, ici, on traduit un peu à la française. Hein.
Bien-aimé, ça irait pas.
Mon doux, ma douce.
Oui.
Bien-aimé ou son cher, ça renvoie au sentiment qu'elle a pour lui. Alors
que oui, doux, alors que doux, ça peut être lui qui est doux.
Oui, c'est une traduction.
Mais on dit d'un autre côté, quand on dit ma douce, hein, comme Louis de Funès le disait si bien.
Je pense que ma biche.
Ma biche, voilà, et ma douce. Donc dans l'amour courtois, on dit ma douce. Mon doux seigneur.
Mais c'est vrai que c'est pas facile de traduire.
Elle vit son doux fils en mourant abandonné pendant qu'il rendait l'esprit. Stabat mater, istud agas, sancta mater, pardon, istud agas, crucifixi fige plagas, cordi meo validé. Alors là, c'est compliqué. C'est là qu'on voit que le latin s'accroche à la fin du mot, mais l'ordre des phrases, il s'en moque complètement. Istud agas, on parle à la Vierge Marie, sainte mère. Agas, c'est-à-dire agit, hein, c'est du subjonctif. Que tu fasses cela. Istud, cela. Hein, ici, c'est du neutre, de l'accusatif neutre singulier. Hein, c'est un pronom démonstratif. Voilà. Egi. Actum. Donc, fais ceci. Mais quoi? On pourrait ainsi utiliser l'impératif du verbe agere, istud age. Mais là, ici, que tu fasses ceci. agathe, c'est du subjonctif. Pourquoi il le met ? Le texte ici préfère le présent du subjonctif que tu fasses cela. Nous reviendrons sur la conjugaison de ce temps. Istoud répond bien ici à la signification personnelle exposée dans la leçon précédente. Il signifie « fais cette chose qui est en ton pouvoir, manifeste ton action ». Fige, impératif de figere. Alors, c'est vrai, on a un subjonctif dans agas et tout d'un coup on a un impératif. Et ça, c'est le latin chrétien se moque, mais alors complètement de la grammaire classique. Tout d'un coup, il s'en rappelle un peu, alors il faut un petit truc. Par exemple, le pronom relatif de liaison que merebat et dolebat, c'est du latin classique. Voilà. Mais de mettre agas puis fige, ça, c'est pas classique du tout. Oui.
C'est de même, est-ce que ça existe dans le mariage de Cana?
Faites ce qu'il va vous dire.
Oui, c'est le même.
Je pense que ça doit être un impératif.
Ah oui.
Oui. Et au pluriel. Parce qu'elle parle au serviteur. Fige, c'est fixe. Alors fixe quoi? Fixe les plaies. Plagas, accusatif, féminin, pluriel. Fixe les plaies. Ah ben, qu'est-ce que c'est, hein?
Plagas.
Crucifixi. Ah, alors là, c'est vraiment compliqué. Et c'est simple. En fait, c'est du génitif singulier, génitif masculin singulier. Crucifixus.
La semaine sainte, on entend beaucoup.
Oui. Oui. Crucifixus, crucifixé, crucifixum, crucifixi, crucifixo, crucifixo, crucifixi, crucifixi, crucifixos, crucifixorum, crucifixis, crucifixis. Alors là, c'est rare, le crucifié. C'est pas un crucifix, c'est le crucifié. Et en fait, crucifix, c'est là qu'on voit que ça veut dire un crucifié. Un crucifix. Oui. Fixe les plaies du crucifié. Voyez. Oui. Cordiméo. Corps. 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 C'est du neutre. Corps. 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 Et non pas cordem. Corps. 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 Cordis. Cordi. Cordé. Corda. 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 Cordum, cordibus, cordibus.
Sur son corda.
Eh bien, cordi, c'est du datif, c'est complément d'objet indirect. Fixe à mon cœur. Vous voyez. Pour mon cœur. Dans mon cœur. Enfin, là, il y a une action indirecte. Fixe les plaies à mon cœur. Cordi meo, c'est la personne qui fait la prière, c'est donc c'est nous. Valider, alors là c'est, on en perd son latin, parce que valider, c'est l'adverbe de manière formé par l'adjectif validus, valida, validum, à une sorte de d'ablatif emprunté à la troisième déclinaison. C'est très drôle. C'est hilarant. Validus, validé, validum. On ne voit pas ce que ça fait, valider. À moins que ce soit, par exemple, le vocatif. Validus, validé, validum. Validi, valido, valido. Validi, validi, validos. Validorum, validis, validis. Eh bien, non. C'est un adverbe. Or, qui dit adverbe dit complément circonstanciel. Hein? Avec... de manière valide, de manière valide, de manière forte, fortement. Donc vous comprenez qu'en fait, ici, le « et » de valider, c'est une sorte d'emprunt de l'ablatif du troisième, de la troisième déclinaison. Et c'est ce qu'on appelle un adverbe, de manière.
C'est possible de l'employer sur tous les adjectifs
de oui, de première classe.
Et tous sont des exceptions.
Voilà. Et les adverbes pris sur des adjectifs de deuxième classe, c'est-à-dire sur la troisième déclinaison, eh bien, c'est iter. Fortiter. fortis, fortis, forte. Attention, le et des adjectifs de deuxième classe, c'est le neutre de la troisième déclinaison. Fortis, fortis, fortem. Fortis, forti, forte. Fortes, fortes, fortes. Fortium, fortibus, fortibus. Au neutre, forte, 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 et non pas fortem. Fortis, forti, forti. Fortia, fortia, fortia. Fortium, fortibus, fortibus. Ça commence à devenir un peu compliqué.
Oui, oui.
L'adverbe de fortis, ce n'est pas forte, parce qu'on confondrait avec le neutre. C'est fortiter. Donc, un latin qui voit fortiter, iter, de toute façon, fortiter, c'est un adverbe. Mais quand il voit un adjectif qui normalement se décline sur rosa ou sur dominus ou sur templum, comme validus, valida, validum, avec un « et » à la fin, eh bien, il se dit, ça, c'est un adverbe d'un adjectif de première classe. Vous voyez ? Valider, c'est un adjectif de première classe avec une forme d'ablatif, donc complément circonstanciel de manière, validement, fortement. Tandis que si on avait un adjectif qui se décline sur la troisième déclinaison, on ne prendrait pas le « et », on prendra le « iter », fortiter. Virgo virginum preclara, mici iam non sis amara, fac me tecum plangere. Virgo, virgo, virginem, virginis, virgini, virginé, virgines, 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 virginum, virginibus, virginibus. Virgo, ça ne peut être que ou nominatif ou apostrophe, vocatif. Et là, ici, pour le coup, c'est du vocatif. Virgo virginum, la vierge des vierges, la plus grande des vierges. Virgo, virgo virginem, virginis, c'est là qu'on voit que le radical d'un mot est pris au génitif. Virginis, vous retirez le mot is et vous avez virgin. Et vous voyez que en anglais, le mot virgin est du pur latin. Virgo, virgo, virginem, virginis, virgini, virginé, virgines, 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 virginum, génitif, féminin, pluriel. Virginibus, virginibus. Vierge des vierges. Préclara, sur Rosa. Préclara, ça veut dire noble, célèbre. Noble vierge des vierges. Virgo virginum préclara. Mici, à moi. Hein, mais, mei, mici, mais. C'est moi, pronom personnel. Mici yam non si samara. Désormais, yam, ou déjà aussi. Sis, verbe être, au présent du subjonctif, deuxième personne du singulier. Que tu ne sois pas désormais pour moi, datif, amara. Sévère, dur, amer. En ce cas aussi, ce mode remplace l'impératif. Que tu ne sois pas. Vous voyez, mais là, il ne le met pas. Vous voyez, le subjonctif, c'est « Que le Seigneur soit avec vous. Dominus vobiscum sit. Vous voyez, et cum spiritu tuo. » Les Anglais ont traduit après le concile « Et avec toi. Le Seigneur soit avec vous. » Et en anglais, on répondait « And with you. » Et avec toi. Et là, le prêtre, à chaque fois, il disait, c'est pas important, c'est mon esprit uni à Dieu. Et cum spiritu tuo, ça a quand même des siècles qu'on dit et spiritu tuo. Pourquoi vous dites seulement et avec moi? Et ben, c'était une mauvaise traduction. Et dans 2011, on dit God will be. Lord with you. And with your spirit. Maintenant. And with your spirit. The Lord be with you. And with your spirit. Depuis 2011. Ça a été traduit par and with you. Ici donc, 6, c'est Dominus vobiscum sit, que le Seigneur soit avec vous. Et cum spirituo, et avec votre esprit. Et donc, vous voyez bien que vous tutoyez le prêtre pendant toute la messe. Pourquoi ? Parce qu'il est au singulier. Le latin, c'est où on est seul, où on est à plusieurs. Le Seigneur soit avec vous, vobis cum, parce que vous êtes plusieurs. Et là, il dit, et avec toi, mon pote. Non. C'est plus noblement dit, et cum spiritu tuo, mais à une manière plus. C'est dans le ton, vous voyez, on voit la différence. Ici aussi, on ne dit pas, si tu pouvais être moins sévère avec nous. Voilà. C'est. Ô Vierge des Vierges si noble, que tu ne sois pas sévère, non si samara, non c'est la négation, que tu ne sois pas amère vis-à-vis de nous, sévère, dur, dans un sens plus large, yam désormais, miki pour moi. Fac, c'est l'impératif du verbe facere. Ce verbe fait exception à la règle qui forme l'impératif par suppression du ré de l'infinitif. Ça serait facce, normalement. Fac, le E est tombé, parce que tellement les latins l'utilisaient. Hein, fac, fait, ceci. On dit pas facce, on dit fac. Mais on dira facité, fait. Fac, mais, tecum plangere. Et là, alors là, il y a un silence complet de l'auteur. Elle vous met, bon, ben, on traduit comme ça, si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Hein. Faites que je me lamente avec toi. Fac metecum plangere. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une proposition infinitive. Je ne vois pas pourquoi elle n'a pas osé le mettre. Fait que. Ah. Le sujet d'une proposition infinitive est à l'accusatif. Et le verbe d'une proposition infinitive est à l'infinitif. Fait que, mais, c'est je, c'est ego, mais à l'accusatif. Fait que je pleure. Fac me plangere. Fait que je pleure. Voilà ce que ça veut dire. Fais-moi pleurer. Fais-moi. Vous voyez, ici, cette forme respecte le latin dans sa dureté. C'est-à-dire que le sujet est un complément d'objet direct. Donc, il est accusatif. Fais de moi que je pleure. Agis sur moi. Fac, mais. Fais que moi, je pleure. Fais-moi pleurer. Fac me plangere. Tecum. Cum plus ablatif. Mais on sait que me et te sont ou de l'accusatif ou de l'ablatif. C'est la même forme. Avec toi, tecum. Non pas cum te, mais tecum.
C'est tecum. On peut dire ça.
Alors, leçon 8, alors là on va bien s'amuser. L'imparfait de l'indicatif, page 22. Ce temps se conjugue de la même façon dans tous les verbes. Seul varie pour chaque conjugaison la voyelle propre à cette conjugaison qui précède la désinence proprement dite, c'est-à-dire la fin du mot. Cla, les verbes en aré, ça sera a. Cla, ma, bam. Clama basse, clama bat, clama bamus, clama batis, clama bant. Les verbes en do, léo, doles, doléré, c'est le e qui va rester. Do lebam, do lebas, do lebat, do lebamus, do lebatis, do lebant. Bam, bas, bat, bamus, batis, bant. L'imparfait. La troisième conjugaison, ici, c'est ad, ago, agis, agere. Le e ici est pris de l'infinitif. Adjebam, adjebas, adjebat, adjebamus, adjebatis, adjebant. Et audio, audis, audire. Ici, vous allez me dire pourquoi on ne dit pas audibam, audibas, audibat, audibamus, audibatis, audiban, puisque c'est les verbes en iré. Mais c'est rien que pour vous embêter. Les grammairiens se sont dit, est-ce qu'on va faire une petite compo? Ça ne peut pas être régulier. On va faire un truc irrégulier. On ne peut pas, on ne peut pas. Que ça soit simple, c'est pas possible. Donc c'est aodier. Ben. Les verbes en iré, c'est ie, ie. C'est pas gentil, c'est désagréable, agressif. Voilà. Aodiebam, aodiebas, aodiebat, aodiebamus, aodiebatis, aodiebat. Mais ils ont laissé quand même tout l'imparfait de tous les verbes identique. Tandis que le futur. Vous aviez beau, bis, bit, bimus, bitis, bunt, mais une simple voyelle pour la troisième conjugaison. Le présent du subjonctif pour le verbe être, sim, sis, sit, simus, sitis, sint. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Assez simple. Simple, n'est-ce pas ? Plié une fois, simplex. Le présent, chiffonné, ça c'est autre chose. Plié plusieurs fois. Oui. Le présent du subjonctif des quatre conjugaisons est assez facile à reconnaître. Menteuse. Lorsque l'on sait bien à quelle conjugaison appartient le verbe. Donc, quel est son présent d'indicatif? Ça c'est vraiment très drôle. Donc c'est compliqué. Hein, parce que ça n'arrête pas de changer. Bon. Au deuxième, troisième et quatrième conjugaison, le présent du subjonctif se caractérise par la voyelle A. Bien sûr. Ah ben, c'est tellement facile à comprendre que les verbes en errer, errer et irer, c'est A. Ah oui, c'était d'une évidence par rapport au verbe en arrêt, n'est-ce pas? Qui, eux, ont un subjonctif en E. Alors vous allez me dire, donc ils ont fait exprès. Oui. Parce que voyez-vous, comme le présent de l'indicatif est en A, il faut choisir une autre voyelle pour le subjonctif. Donc ils la piquent au verbe en erré. Et comme les verbes en erré ont un présent en E de l'indicatif, mais pour le subjonctif, ils vont piquer le A. Voyez. Donc ils s'échangent leur voyelle entre l'indicatif et le subjonctif. Voilà. C'est simplement... ils ont coupé la lumière et... Alors, du coup, la première conjugaison... Ah, que je crie. Voilà.
Clamem.